Alors, lisons ensemble. Ésaïe, chapitre 57, à partir du verset 15. Donc, il est dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener, de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Mais je ne veux pas contester à toujours, ne garder une éternelle colère, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Je m'arrête là pour cette lecture. Le titre de mon message s'intitule L'homme contrit et humilié obtient la faveur de Dieu. L'homme contrit et humilié obtient la faveur de Dieu. Quand j'ai commencé à lire au verset 15, on voit Dieu qui se présente. Il dit, car ainsi parle le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu. Et il dit, en ce qui le concerne, il est celui dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, et qu'il habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Alors, lorsqu'on considère vraiment à tête reposée tranquillement ce que Dieu dit de lui-même, on peut se dire, mais finalement, qui peut accéder à ce Dieu? C'est un être qui paraît inaccessible lorsqu'on lit de cette manière ce que Dieu dit de lui-même. Alors, c'est vrai que Dieu dit ce qui est vrai le concernant. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne va pas dire autre chose que ce qui concerne sa propre personne et la réalité de l'être qu'il est. Mais cependant, malgré cette gloire que nous puissions apercevoir en lisant ces quelques mots, ces quelques lignes de sa propre personne, malgré cette souveraineté, cette puissance qui se décèle à travers ce que Dieu dit de lui-même, il y a une réalité qui est tout aussi vraie, c'est que Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut qu'on le cherche. En Jérémie 29, 13, 14, il dit, vous me chercherez. Il parlait au peuple d'Israël dans une circonstance particulière, mais la parole de Dieu, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, puisque là nous sommes en Jérémie et en Ésaïe dans l'Ancienne Alliance, ou que ce soit dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire depuis que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie à la croix pour nous sauver, nous savons que toute la parole de Dieu, elle nous parle à tout instant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et à travers sa parole, nous sommes tous concernés. Et même si c'était quelque chose de spécifique à ce moment-là qui était dit au peuple d'Israël, cela nous concerne aussi. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu veut que nous le cherchions, mais pas de n'importe quelle manière. Il veut que cette recherche soit vraiment une recherche sincère dans la vérité, et qui a pour but de lui donner vraiment cette place prépondérante dans notre vie, c'est-à-dire que nous ne devons pas faire semblant de le chercher, mais nous devons vraiment le chercher, il est dit, de tout votre cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur, il dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Je me laisserai trouver. Et là, spécifiquement à l'histoire du peuple d'Israël, il leur faisait cette promesse « Et je ramènerai vos captifs » parce qu'ils étaient déportés, ils étaient dans la souffrance, ils avaient vécu donc certaines choses difficiles parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. « Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Donc ils étaient en captivité, ils étaient donc dans une situation de détresse. Mais dans cette situation de détresse, Dieu continue à les aimer. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour l'Église de Jésus, c'est la même chose pour les chrétiens qui forment le corps de Christ. Il nous arrive quelquefois de désobéir, il nous arrive de nous égarer, il nous arrive de faire des mauvais choix. Pour autant, l'amour de Dieu à notre égard ne change pas. Et comme Dieu, de la même manière que Dieu s'est exprimé en faveur du peuple d'Israël, c'est de la même manière qu'il ne cesse de nous parler à chacun d'entre nous, même lorsque nous nous égarons, il nous dit « Vous me chercherez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Et à ce moment-là, là pour le peuple d'Israël, il était question de les ramener de la captivité, mais pour nous, il est question à ce moment-là de nous secourir dans une situation peut-être défavorable, mais où Dieu nous exprime son amour pour nous dire « Mais je suis toujours à... avec toi, je t'aime toujours, mon amour n'a pas changé, et si tu te trouves dans une situation difficile parce que tu as désobéi, mais parce que tu me cherches de tout ton cœur, alors je viens à ton secours pour changer les circonstances de ta vie. » Et en Jean 6, 37, 34, là c'est Jésus qui parle, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et c'est Jésus-Christ qui dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et regardez bien ce qu'il dit. Du moment où quelqu'un vient à lui, il dit « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, il est dans notre intérêt de chercher Dieu. Que ce soit dans l'obéissance, nous devons le chercher. Ou que ce soit dans la désobéissance, malheureusement, nous devons continuer à le chercher. Parce qu'il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Du moment où on vient à Dieu, Dieu nous accueille. Il est dit qu'il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Quel est celui qui l'a envoyé? C'est le Père. Et il dit que la volonté du Père qui l'a envoyé, donc, c'est de ne point perdre rien de tout ce que le Père lui a donné, mais c'est que tous ceux qui croient en Jésus puissent connaître la résurrection au dernier jour, parce que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et alors le Christ Jésus le ressuscitera au dernier jour. Lorsqu'il dit quiconque voit, il n'est pas question forcément de voir avec nos yeux de la chair, avec de manière visible, même si c'est une réalité. Dieu peut tout à fait se révéler à nous de manière visible, ça se fait. Il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des personnes qui ne sont même pas serviteurs de Dieu, à qui Dieu peut se montrer dans une vision, quand il veut leur parler de cette manière, les toucher. Mais de prime abord, il n'est pas question de suite de penser à le voir de manière physique. Il est surtout question de le rencontrer par la foi, de croire en lui, de le chercher par la foi et de croire dans ce que Dieu dit. Et alors, si nous croyons, c'est là que Dieu va pouvoir honorer la foi que nous plaçons donc en lui. Alors, certaines personnes disent qu'elles n'arrivent pas donc à rencontrer Dieu, elles ne trouvent pas Dieu, elles cherchent, mais elles n'arrivent pas à le trouver. Certaines personnes font de longs pèlerinages, d'autres font des voyages, d'autres cherchent Dieu à travers des écrits, des livres qui ne sont pas forcément la Bible, d'autres cherchent auprès d'autres personnes des conseils et elles disent qu'elles n'arrivent pas à trouver Dieu. Et même des chrétiens, des fois, peuvent dire mais je crois, j'ai la foi, je prie, je lis ma Bible, mais je ne sens pas la relation que j'ai avec Dieu, où Dieu ne se révèle pas à moi. Dieu parle à celui-ci, Dieu parle à celle-là, mais à moi il ne parle pas. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu et qui tiendrait de tels propos, car moi on me l'a déjà dit, pourquoi un enfant de Dieu peut-il dire que Dieu ne se révèle pas à lui? Pourquoi l'enfant de Dieu a l'impression que Dieu ne lui parle pas comparativement à d'autres chrétiens? Alors, en fait, la réponse, elle est celle-ci. Alors, il n'y a pas que cette réponse-là. Il peut y avoir d'autres causes, mais il y en a une qui est celle-ci. Tout dépend de l'attitude de celui qui s'approche de Dieu. Ça dépend de l'attitude de celui, de celle qui s'approche de Dieu. Parce que si je reprends ce que j'ai commencé à lire au début pour introduire le message, « Car ainsi parle l'Éternel, le Très-Haut, verset 15, d'Ésaïe 57, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint, il dit, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais regardez ce qu'il dit. Il ajoute le « mais ». Vous voyez le « mais » là? En fait, c'est vraiment comme une opposition, mais ça ne s'oppose pas naturellement. C'est plus un complément d'information qui est nécessaire et que Dieu tient donc à préciser. Parce que j'ai dit que ça semble être un être inaccessible, et lorsqu'il dit « mais », il veut faire prendre conscience que malgré le fait qu'il soit le Très-Haut, qu'il habite les lieux très élevés, il n'est pas justement un Dieu inaccessible. Bien au contraire, il est accessible. Et c'est pour ça qu'il dit « mais je suis », donc c'est bien ce qu'il dit, « je suis ». Il n'est pas en train de dire « peut-être que je serai » ou « je vais prendre le temps de réfléchir, je vais considérer les choses et je dirai peut-être si je serai ou pas ». Non, il dit « je suis ». « Je suis avec l'homme contrit et humilié ». Je suis. C'est une réalité. « Je suis avec l'homme contrit et humilié ». Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question de ce que signifie être contrit et humilié, puisque Dieu dit qu'il est avec l'homme contrit et humilié. Contrit, donc, ça veut dire une personne, ça décrit une personne qui reconnaît avoir commis une faute, qui reconnaît avoir commis une maladresse, un péché, et qui se repent. L'homme contrit, c'est l'homme qui reconnaît. C'est pour ça que je dis, tout dépend de l'attitude qu'a la personne qui cherche Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes effectivement qui cherchent et qui ne trouvent pas. Pourtant, Dieu dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Mais ça dépend de l'attitude, de l'approche. Contrit, c'est la personne qui reconnaît. Elle reconnaît qu'elle a commis une faute, qu'elle a commis une maladresse, un péché, et elle ne s'arrête pas seulement au fait de reconnaître, mais elle va maintenant faire une action qui consiste à se repentir, à demander pardon, à regretter sincèrement. Et cela, elle peut le faire vis-à-vis d'autres personnes qu'elle aurait offensées, mais là, dans le cas présent, ou dans ce contexte, nous parlons surtout de la relation avec Dieu, donc il s'agit donc de la personne qui, reconnaissant ses fautes, elle va aller vers Dieu et elle va sincèrement donc demander à Dieu de lui pardonner. Et humiliée, ben c'est une personne qui est rabaissée, déshonorée. Alors ça peut être de la part d'autres personnes qui l'humilient ou ça peut être la personne même. Mais dans le cas présent, il est surtout question, puisque nous parlons de la communion avec Dieu, il est surtout question d'une personne qui va s'humilier elle-même, qui va se rabaisser devant la grandeur de Dieu, devant la souveraineté de Dieu, considérant vraiment que Dieu est le Créateur et que cette personne, elle est la créature. Et même si elle est un enfant de Dieu et a reçu Jésus dans sa vie, elle va vraiment s'humilier, se rabaisser, s'abaisser. Alors, ce n'est pas vraiment se rabaisser, c'est surtout s'abaisser devant Dieu, dans le but donc de lui demander pardon. Donc encore faut-il que nous soyons dans cette attitude lorsque nous avons reconnu avoir commis une erreur. Et si nous ne reconnaissons pas, donc cela sera difficile parce qu'il y a des personnes qui reconnaissent même pas lorsqu'elles commettent des erreurs. Elles ne reconnaissent pas. Elles estiment ne pas avoir commis d'erreur, que tout est correct, tout est bon dans leur vie et même vis-à-vis de Dieu, tout va bien. Et comment peuvent-elles donc s'approcher de Dieu dans une telle attitude si elles ne reconnaissent même pas l'état dans lequel elles se trouvent? Et c'est pour ça qu'il est bon pour nous de dire à Dieu, comme a dit un jour le psalmiste, « Mais sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, vois si je suis sur une bonne voie. Et si je n'y suis pas, ben conduis-moi sur la voie de la vérité. » Et si Dieu nous révèle que nous ne sommes pas sur la voie de la vérité, nous allons pouvoir donc nous humilier devant sa face, car Dieu le dit et certaines personnes ont besoin de l'entendre. Lorsque nous leur annonçons l'évangile, la parole de Dieu, et nous devons leur faire comprendre aussi avec l'amour du Seigneur que Dieu dit que tous les hommes ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu en Romains 3, 23, 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire qu'ils ne le méritent pas. Ce n'est pas quelque chose que l'homme mérite, c'est une faveur que Dieu lui accorde. Donc justifié par la grâce parce que Jésus a payé à la croix, donc par le moyen de la rédemption effectivement qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et alors il y a des personnes effectivement qui refusent catégoriquement de s'humilier. Et malheureusement cela peut se rencontrer aussi au sein du peuple de Dieu. C'était le cas au sein du peuple d'Israël et c'est aussi le cas au sein des personnes qui fréquentent les communautés chrétiennes. Il y a des personnes qui refusent de s'humilier même devant l'évidence lorsqu'elles ont commis donc des erreurs. Alors un jour, Jésus passait quelque part et puis il verra un homme qui était là au péage, il s'appelait Lévi, plus communément appelé ou connu du moins sous le prénom de Matthieu. Il appelle Lévi qui est Matthieu et c'était un publicain. Matthieu, c'était un publicain, c'était un collecteur d'impôts. Il n'était pas du tout apprécié au sein du peuple d'Israël. Ce n'étaient pas des personnes qu'on avait envie d'inviter chez soi parce que vraiment, ils étaient considérés comme des personnes mauvaises, de mauvaise vie et qui profitaient des autres, qui étaient des voleurs et en plus de collecter les impôts, qu'il était malhonnête. Matthieu, mais pourtant Jésus fera de lui un de ses apôtres. Alors, en Matthieu 9, 10, 13, voilà, un jour, donc après avoir appelé Matthieu, Jésus maintenant se trouve dans la maison de Matthieu. Il se trouve avec Matthieu, mais comme Matthieu était un publicain, il avait beaucoup d'amis ou de relations de personnes qui, comme lui, étaient des publicains. Donc la parole de Dieu nous dit, Matthieu 9, 10, 13, comme Jésus était à table, dans la maison, voici, beaucoup de publicains, ce qui était normal parce que c'était un publicain à la base. Beaucoup de publicains, mais pas seulement les publicains, et de gens de mauvaise vie. Les gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu leur dit donc, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Donc, une personne qui doit s'humilier devant Dieu doit reconnaître son état. Si la personne ne reconnaît pas son état devant Dieu, elle considère qu'elle est bien portante alors qu'en réalité elle est malade. Jésus a pris cet exemple pour dire, mais ce sont les malades qui ont besoin donc de médecins, pas ceux qui sont bien portants. Et là, naturellement, il voulait faire le lien avec la réalité spirituelle. Et il dit, mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Alors allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et c'était la réponse qu'il donnait à ces scribes, à ces pharisiens qui lui faisaient le reproche, de manger avec des gens de mauvaise vie. Et c'est pour cela que la personne qui ne reconnaît pas son état devant Dieu, eh bien, elle ne va pas s'humilier. Mais Dieu dit, c'est avec celui qui s'humilie, l'homme contrit et humilié que je me trouve. Je me tiens à ses côtés. Je me tiens à ses côtés parce que je regarde le fait qu'il reconnaisse son état. Et reconnaissant son état, lorsqu'il vient s'humilier, il reconnaît qu'il a besoin de moi. C'est ça en fait la vérité. La personne qui ne reconnaît pas qu'elle a besoin de Jésus-Christ pour la secourir dans sa situation, eh bien, elle reste dans son état qui sépare de Dieu. Et là, voilà ces hommes, ils ne reconnaissaient pas leur état d'égarement spirituel, le fait qu'ils ne comprenaient pas la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Ne reconnaissant pas leur état, ils restaient donc dans l'égarement et dans la séparation d'avec Dieu. Et cela arrive aussi à beaucoup d'enfants de Dieu qui refusent de s'humilier parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Seigneur, montre-moi mon état ce soir. Montre-moi dans quel état toi, avec tes yeux réels, spirituels, authentiques, de la vérité, lorsque tu me regardes, comment me vois-tu? Que vois-tu en moi? Est-ce que tu vois une personne qui t'est agréable ou est-ce que tu vois une personne qui t'est désagréable? Si je suis agréable, dis-le-moi, Seigneur, et que je puisse continuer à t'être agréable. Mais si je te suis désagréable et que je n'en suis pas conscient, Seigneur, révèle-le-moi afin que je puisse, dans ta présence, corriger ce qui ne va pas et devenir une personne, donc, agréable. Agréable. Alors, il y a d'autres personnes qui refusent de s'humilier devant Dieu parce qu'elles se laissent impressionner et influencer par d'autres personnes. Ça arrive. Ça arrive que des fois, on ne veuille pas perdre la face. Ça peut être même vis-à-vis des membres de notre famille qui n'est pas chrétien, par exemple. Et on refuse de s'humilier devant Dieu parce que quelqu'un nous influence. Et cela peut arriver parce que c'est aussi quelqu'un qui, de par ses fonctions dans la société, c'est une personne qui est considérée dans la société. Et vis-à-vis de cette personne, on a peur de s'humilier devant Dieu. Ça peut arriver aussi. On a peur de s'humilier. Regardons un exemple, l'exemple d'un chef de la synagogue en Israël. Luc 13, 19. Il est dit que Jésus enseignait donc dans la synagogue, dans une synagogue, le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et sur cet aspect-là, je voudrais vous dire que il nous arrive de croiser des gens dans la vie de tous les jours. Peut-être que nous n'en sommes pas toujours conscients. Nous voyons des personnes qui sont des fois dans des situations de tristesse, des situations vraiment qui ne peuvent pas laisser indifférents parce que ces personnes souffrent. Ça peut être par la maladie ou par d'autres circonstances de la vie, des gens qui rencontrent tout le temps des échecs, rien ne fonctionne pour elles, pour eux, pardon. Et il se peut que ce soit des personnes qui sont liées par des esprits impurs. Cette femme était liée. Il nous arrive d'en croiser. Il nous arrive d'en croiser des personnes qui sont liées par des esprits impurs, soit par un handicap, par un problème de santé, par des échecs répétitifs dans leur vie. Et des fois, ce sont des personnes qui, comme cette femme, sont liées par des esprits impurs. Lorsque nous voyons des gens qui souffrent, demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels et de nous montrer ce qui ne va pas dans la vie de cette personne pour mieux orienter notre prière en faveur de la personne. Car la prière bien dirigée est efficace. Parce que nous pouvons peut-être, en voyant quelqu'un être touché dans notre cœur, et nous allons prier, oui, c'est vrai que Dieu écoute, et nous allons dire, Seigneur, bénis cette personne, tu vois sa souffrance, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais regarde sa situation, bénis-la cette personne. Mais si nous connaissons le problème, la cause, nous pourrons encore mieux prier pour que Dieu puisse agir pour délivrer et bénir cette personne. C'était le cas donc d'une femme depuis 18 ans, elle était courbée, elle souffrait, elle ne pouvait pas se redresser à cause d'un esprit impur. Cette femme était possédée. Et lorsque Jésus voit cette femme, Jésus lui adresse la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il va lui imposer les mains et à l'instant, elle va se redresser et elle va glorifier Dieu. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. pour envoyer libre ceux que le diable donc avait emprisonnés par ses œuvres ténébreuses. Mais Jésus-Christ a vaincu, il est dit qu'il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et pourtant, voilà un chef de la synagogue. Il est chef de la synagogue. La synagogue, c'est là où on vient pour prier Dieu, n'est-ce pas? On vient pour recevoir les instructions de Dieu, la parole de Dieu, et pour adorer Dieu et pour prier Dieu. Il en était le chef de la synagogue. Et devant ce miracle, devant cette bénédiction, voyant cette femme qui reçoit la grâce de Dieu et qui est délivrée, eh bien lui, il ne va pas du tout s'exclamer de joie. Il va dire, mais le chef de la synagogue, il sera déjà indigné. Et il dira ainsi, indigné de ce que Jésus avait opéré, donc du fait que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Vous voyez l'attitude de cet homme ? Aucune compassion envers cette femme liée depuis 18 ans par un esprit ténébreux. Et malheureusement, c'était le chef de la synagogue. Et il a pu influencer des personnes dans cette attitude-là. Et regardez ce qui s'est passé à Béthanie dans Jean 12, 42, 43. À Béthanie, un jour, Jésus s'y trouvait là où il y avait Lazare. Lazare avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Et à ce moment-là, Jésus avait déjà ressuscité Lazare. Et il est dit que beaucoup de personnes venaient justement pour voir Lazare que Jésus-Christ avait ressuscité. Et donc, et la parole de Dieu nous dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, et malgré le fait que Lazare était vivant, Lazare était là, vivant, au milieu d'eux, et que cela attirait la foule. Il est dit, malgré tout cela, ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Je m'arrête là pour la prophétie et je passe directement au verset donc 42. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit cependant, malgré le fait que beaucoup de personnes ne croyaient pas, mais cependant, même parmi les chefs d'Israël, du peuple d'Israël, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils reconnaissaient la vérité, ils reconnaissaient que Jésus-Christ faisait des miracles extraordinaires, que sa parole était une parole qu'on n'avait jamais encore entendue, une parole d'autorité, mais qui se concrétisait par des miracles et des prodiges. Ils ont fini par être convaincus, mais à cause des pharisiens, ils ne vont pas avouer le fait qu'ils croient en Jésus. Ils vont se cacher, ils auront honte de dire ouvertement, oui, nous croyons qu'il est le Fils de Dieu qu'il dit être. Nous croyons qu'il est le Messie que nous attendions. Ils ont honte, ils ont la crainte d'être exclus de la synagogue. Et ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et ça, c'est l'influence que des personnes influentes, justement, peuvent avoir sur nous et pour nous empêcher de nous humilier devant Dieu. Et ça peut être aussi une personne mal affermie au sein de la communauté qui, là où on doit s'humilier, viendra et vous dira, « Oh, c'est pas la peine. Ce qu'il t'a raconté là, non, ce n'est pas vrai. » Au lieu de vous conduire dans la bonne voie, là où Dieu va vous rencontrer, là où Dieu va nous rencontrer, la personne va vous pousser à rester dans une attitude où on garde l'orgueil vis-à-vis de Dieu alors qu'on doit s'humilier. Les personnes influentes, il y en a dans la société que nous croisons dans la vie de tous les jours, il y en a au sein de notre famille et il y en a même au sein des communautés chrétiennes. De mauvais conseillers qui ne nous aident pas à entrer dans une communion efficace et glorieuse avec Dieu. Elles vont nous pousser au contraire à rester dans donc dans l'orgueil, dans la vanité. Et Jésus, reprenant pour continuer la lecture de Luc 13, 10, 19, il dira à ce chef de la synagogue qui avait été indigné donc de ce miracle que Jésus avait accompli pour délivrer cette femme, Jésus lui dit « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Faites attention aux personnes qui peuvent vous influencer et au lieu de vous donner des bons conseils concernant une réelle vie chrétienne de qualité, elles vont vous pousser à vous enorgueillir et à vous tenir en fait loin de l'amour, de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Les personnes de mauvaise influence. Et c'est pour cela que certains enfants de Dieu, alors que ce sont des enfants de Dieu, que Dieu aime, que Dieu chérit, comme la prunelle de ses yeux, que Dieu ne demande qu'à bénir, mais certains enfants de Dieu n'obtiennent pas de délivrance dans tous les combats qu'ils mènent dans leur vie. Parce qu'ils ne savent pas quand c'est nécessaire, parce qu'il ne suffit pas à tout bout de champ de s'humilier. Ce n'est pas du tout ça, le message. Mais quand c'est nécessaire et utile, indispensable, ils ne savent pas s'humilier. Ils sont des fois dans des combats, ils mènent, ils prient, ils jeûnent. Ils se privent pendant, mais j'ai fait le jeûne d'Esther, j'ai fait le jeûne de 7 jours, je me suis abstenu. Hé, mon frère, comment vas-tu? Viens, on va manger un kebab. Ah non, je jeûne depuis une semaine. Je jeûne parce que je suis dans un combat spirituel. Et je prie. Et au nom de Jésus, je réclame même que le feu de Dieu tombe sous les autels sataniques qui ont été mis en place contre moi. Au nom de Jésus. Et rien ne se passe dans leur vie. Parce que simplement, ils doivent s'humilier. Le combat se gagnera simplement lorsqu'ils deviendront une personne, comme il est dit, contrit et humiliée. Dieu dit, je me tiens auprès de celui qui est contrit et humilié. Et ils continuent à mener leur combat et rien ne se passe, mais ils ne se posent pas de questions. Seigneur, que se passe-t-il? Pourquoi ne me réponds-tu pas? Parce que simplement, il suffit de s'humilier, d'être contrit et humilié pour avoir, donc, avoir la victoire. Et que dit Dieu? Lorsque nous sommes dans cette attitude, il dit, c'est afin de ranimer les esprits humiliés. C'est-à-dire afin de ramener à la vie. Ranimer, c'est ramener à la vie. Parce que lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est contrit, lorsqu'on passe par des épreuves, on perd de sa force, on est découragé, on n'a pas forcément toujours envie de prier, on n'a pas de ferveur dans la foi. Quelquefois, on est là languissant et on manque de force. Et Dieu dit justement, mais si je vois ton humiliation, si je vois que tu es vraiment en train de te repentir sincèrement, alors à ce moment-là, moi, je viendrai pour te ranimer, pour te ramener à la vie. Je viendrai te redonner la vie, car c'est Christ qui communique la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Afin de ranimer les cœurs contrits, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Alors Dieu nous dit à nous, lorsque c'est nécessaire pour nous de nous humilier dans sa présence, en 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et un homme de Dieu a expérimenté cela. L'homme qui a su s'humilier, c'est un homme qui normalement méritait la mort. Si vraiment Dieu avait décidé de ne pas exercer sa miséricorde envers cet homme. Si vraiment Dieu avait décidé de ne pas exercer ses compassions envers cet homme, si vraiment Dieu avait retenu son amour envers cet homme, normalement, il aurait dû être frappé et mourir par le jugement de Dieu. Il s'appelait David, roi d'Israël. Et malheureusement, il a commis des choses pas toujours merveilleuses. Il était le roi et il va commettre l'infamie en volant, on peut le dire, en volant la femme d'un de ses soldats. Et lorsque cette femme tombera enceinte et lui fera dire que ça fera dire à ce roi que je suis enceinte, il va tout faire pour tromper cet homme Uri, en le poussant à aller vers sa femme pour qu'il puisse être dans l'intimité avec sa femme pour le faire croire que son épouse est enceinte de lui. Et comme ça ne va pas marcher, il va chercher la solution extrême. Il va mettre en place la stratégie pour tuer cet homme. Il va le faire mourir. Il va commanditer son meurtre. Donc ce qu'a fait cet homme, normalement, vraiment méritait le jugement de Dieu et la mort. Dieu, normalement, aurait dû frapper cet homme et cet homme aurait dû mourir parce que ce qu'il a fait est une infamie. Mais regardez ce qu'il dit dans le psaume 32. C'est de ça dont il parle. Le psaume 32 de David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise. La transgression est remise. Là où, normalement, il devait subir un jugement. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et il parle bien de lui. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc tant qu'il n'avouait pas son péché à Dieu, il n'était donc pas un homme contrit et humilié. Et à ce moment-là, il était dans la souffrance. Il dit que la main de Dieu s'apesantissait sur lui. La faveur de Dieu n'était pas de son côté, parce qu'il refusait de s'humilier. Et c'est lui-même qui le dit, « Tant que je me suis tu. » Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et ensuite il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et à ce moment-là, quand il est devenu un homme contrit et humilié, il a avoué ses transgressions, il est dit, tu as effacé la peine de mon péché. Voilà le résultat. Je me tiens auprès de l'homme contrit et humilié. Tant qu'il n'était pas contrit et humilié, il était dans la défaite et la souffrance. Mais quand il est entré dans l'humiliation devant la gloire de Dieu, avouant son péché, Dieu va changer les circonstances de sa vie. Tu as effacé la peine de mon péché, qu'ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Et c'est pour cela que cet homme, il a expérimenté vraiment cela. Et c'est pour ça qu'il peut dire, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. C'est une expérimentation donc concrète de ce qu'est la grâce, le pardon donc de Dieu. Le temps me manquerait de vous prendre un autre exemple, donc je vais m'arrêter là. Et nous devons donc arriver à la fin du psaume. À la fin du psaume, regardez ce qu'il est dit au verset 21 et 20 et 21. Il est dit, « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit Dieu. » Et les méchants dont il est question ici, ce ne sont pas seulement les personnes qui volontairement vont faire du mal, mais ce sont celles qui, alors qu'elles méritent d'être jugées et condamnées, elles refusent de s'humilier. Elles refusent, dans la présence de Dieu, de courber les chines et de dire, comme le roi donc David, « Oui, je reconnais mes transgressions, je reconnais mon péché, je reconnais que j'ai fauté et vraiment je viens dans ta présence pour te demander pardon Seigneur, que ta grâce ne s'éloigne point de moi. » Et dans un autre psaume, il dit surtout, « Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. » Et lorsque on refuse, alors Dieu dit à ce moment-là, on se comporte comme un méchant. Lorsqu'on refuse de s'humilier, on est comme un méchant qui résiste à Dieu, à l'appel et à l'amour de Dieu. Alors retenez ceci, quelquefois, vous n'aurez pas besoin de mener de grands combats, il faudra simplement s'humilier devant Dieu et Dieu vous délivrera, Dieu nous délivrera, Dieu me délivrera de l'adversité donc à laquelle nous pourrons faire face simplement en nous humiliant, en devenant des hommes, des femmes contrits et humiliés dans sa présence. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire et grâce pour ta parole. Merci pour tes instructions divines. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique tout ce que tu nous révèles, tout ce que tu nous enseignes de ta sainte et divine parole. Merci Jésus-Christ. Amen.